Swing Time 2018. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges, est une émission préparée et présentée aujourd'hui par Jacques Canero et Dominique Gouguet. Bonjour Jacques, bonjour Dominique.
Bonjour Alain.
Alors, la suite de l'émission précédente, bien sûr.
Bien sûr, eh bien, bonjour à tous. Voici donc le second opus préparé et présenté par Jacques Canero sur le thème commun à trois émissions intitulées « Jazz, de l'expressivité à l'évocation ». Nous avions conclu l'émission de la semaine dernière par un disque de Duke Ellington. Nous ouvrons celle-ci avec un autre enregistrement de l'orchestre Ellington, cette fois en 1965 pour le label Reprise, The Opener.
Comme tu l'as indiqué, Dominique, cette émission est le second volet d'une thématique titrée « Jazz, de l'expressivité à l'évocation ». La semaine dernière, nous avons inventorié sommairement quelques-uns des procédés d'expressivité mis en œuvre par les musiciens de jazz. Et le disque explosif d'Ellington que nous venons d'entendre illustrait quelques-unes de ces techniques à travers les solos impétueux de Paul Gonsalves au ténor, Buster Cooper au trombone, Cat Anderson à la trompette. Cette semaine, nous nous intéresserons au pouvoir d'évocation que l'expressivité instrumentale peut générer. Pour cela, nous partirons du fondement essentiel de la musique de jazz, qui est l'élément rythmique. Nous allons entendre le bluesman Hubert Sumlin, ici seul avec une guitare acoustique, utilisée sans médiator. On remarquera comment le soliste installe un balancement souple sur lequel il se met à improviser des lignes agiles, à la fois délicate et ferme, excluant tout effet spectaculaire et obtenant néanmoins une rare efficacité. Hubert's Blues, 1964, pour le label Amiga.
Jacques, Hubert Sumlin, que nous venons d'entendre, fut une grande figure du Chicago Blues d'après-guerre et un éminent spécialiste de la guitare électrique. Il avait été longtemps, d'ailleurs, le partenaire du célèbre Howlin' Wolf. Mais il pratique ici un style renvoyant aux sources du blues et à son Mississippi natal.
Et cette belle pulsation d'Hubert Sumlin pourrait être rapprochée de celle d'un pianiste de blues et de boogie-woogie, comme Cecil Gant, musicien quelque peu oublié et pourtant auteur d'une discographie abondante à la fin des années 40. Voici un disque en solo de Cecil Gant où il ne se passe rien. L'auditeur peu attentif n'y percevra que l'inlassable reproduction d'une même phrase. Le disque s'intitule « Screwy Boogie », l'adjectif « screwy » étant généralement traduit par « fou »,« loufoque », alors qu'il faut surtout en retenir la notion de torsion et la prendre au pied de la lettre. Un screwcork, c'est un tire-bouchon. L'interprétation d'un dépouillement total, avec une main gauche économe au possible, tourne en effet en rond, s'enroule sur elle-même, la main droite dessinant régulièrement dans l'aigu une amorce de spirale, entêtante par sa répétition et par là fascinante. Du swing à l'état pur. Screwway Woogie, 1947, pour la marque Bullet. Cette pulsation rythmique, inexorable, peut suggérer sans trop d'excès d'imagination le mouvement d'un train. L'un des premiers à exploiter cette évocation fut le pianiste de Boogie Woogie, Med Lux Lewis. Il composa un thème autour duquel son jeu lancinant de main gauche s'emploie à traduire la progression régulière d'un train sur un parcours sinueux, avec quelques chaos comme lors de passages d'aiguillage, tandis que la main droite lance des appels stridents, tantôt bref, tantôt prolongé, avant que le tempo ralentisse peu à peu, puis s'immobilise. Encore de nos jours, cette performance est reprise note pour note par d'innombrables pianistes. Med Lux Lewis, lui-même, en a gravé plusieurs versions avec des variantes de tempo. Voici celle de novembre 1935 pour Decca, Honky Tonk Train Blues. Thank you. La thématique du train est fréquente dans la musique de jazz, tant elle est riche de significations. Elle renvoie aux migrations de musiciens afro-américains des États du Sud vers les États du Nord pourvoyeurs de main-d'œuvre. Le train nourrit aussi l'histoire devenue légendaire de ces passagers clandestins dissimulés dans ou sous les wagons de marchandises et qu'on nommait « hobos », sans oublier les transpositions religieuses, le train menant par étapes au paradis, que chantait Sister Rosetta Tharpe dans « This Train » ou qu'illustrait le prêche du film « Alléluia » de King Vidor. Duke Ellington, vers la même époque que Medlock Lewis, composa à son tour une orchestration foisonnante intitulée « Daybreak Express », évoquant le départ d'un train, sa course rapide et son arrivée en gare, le tout pimenté de tintements de cloches et d'appels du sifflet à vapeur, que les Américains nomment joliment « steam trumpet ». La face compte essentiellement des ensembles incisifs, couronnés, en fin de trajet, par le spécialiste de l'aigu dans l'orchestre Ellington de l'époque, Freddie Jenkins. Daybreak Express, version initiale de 1933 pour le label RCA. Quelques années plus tard, Ellington, avec l'aide de Billy Strayhorn, récidive dans cette veine de l'imitation du train. Cette fois, il choisit d'évoquer un tortillard local accomplissant son trajet de façon paisible. « Happy » dit le titre, c'est-à-dire « heureux ». L'interprétation comporte deux thèmes de blues bien distincts. Dans le premier, le sifflet à vapeur est longuement imité par le saxo alto de Russell Prokop, jouant tantôt Grohl dans le grave, tantôt dans l'aigu, prolongé par Renans à la trompette. Sur le second thème, nettement différencié, on entend un peu Jimmy Hamilton au ténor, mais surtout les stridences de Cat Anderson à la trompette. Happy go lucky local, version de 1954 pour Capitol. Au début des années 50, le saxo-ténor Jimmy Forrest utilisa le riff du second thème du Happy Go Lucky Loco Ellingtonien pour composer un blues à succès qu'il intitula Night Train. En voici une version par l'organiste Wild Bill Davis qui s'adonne en public au Birdland de New York à une véritable épopée ferroviaire en poussant à l'extrême l'évocation de l'atmosphère. Tous les ingrédients d'une musique descriptive sont ici réunis, Wild Bill Davis imitant même le chef de train, introduisant à l'orgue des gags humoristiques. Voici donc l'orgue de Wild Bill Davis, la guitare de Floyd Smith et la batterie de Chris Columbus dans une swingante interprétation dont l'expressivité tient aussi au déferlement des riffs. Night Train, 1954, pour le label Epic.
All aboard! All aboard! All aboard!
Thank you.
On pourrait prolonger l'évocation des trains dans la musique de jazz, par exemple en se référant au track 360 d'Ellington ou au Mystery Pacific de Django Reinhardt. Mais l'évocation du monde peut se faire plus ambitieuse encore, comme dans le disque qui va suivre. En 1996, le tap dancer Savion Glower, que nous avions connu en France à ses débuts, créa sur Broadway avec sa troupe de danseurs un spectacle musical ambitieux au possible, puisqu'il se proposait de conter quelques épisodes de l'histoire du peuple noir américain en donnant le premier rôle aux claquettes. Ce show s'intitulait « Bring in the noise, bring in the funk ». Nous allons entendre la séquence évoquant l'afflux des Afro-Américains au début du XXe siècle dans les cités du Nord et leur confrontation avec un machinisme terrifiant qui continuait à faire d'eux des esclaves. Il vous faut imaginer sur la scène un échafaudage métallique avec des danseurs maniant des chaînes ou cognant avec des outils, tandis qu'un tap dancing forcené, ils sont quatre danseurs, restitue la brutalité ambiante jusqu'au coup de sifflet annonçant la fin du travail. Cette étonnante séquence de près de 3 minutes, expressionniste au possible, surprendra sans doute les auditeurs habitués à des formes de tap dancing moins agressives. Ici, en effet, on pense au titre de Faulkner, « Le bruit et la fureur ». Industrialisation, 1996, pour le label RCA.
Jacques, ce que tu nous as fait découvrir ici n'est certes pas conventionnel, mais c'est un tap dancing d'une force expressive peu commune, avec des décalages rythmiques d'un swing étourdissant. On rappellera que la même dénonciation de l'esclavage liée au machinisme se retrouve au cinéma. On peut penser à des films comme Metropolis de Fritz Lang et Les temps modernes de Chaplin.
Alors l'évocation peut prendre de toute autre forme, par exemple celle d'une histoire récréative. C'est ainsi qu'avec un peu d'imagination, vous allez suivre une étrange rencontre. Celle d'un jeune garçon trouvant une trompette et s'efforçant de l'apprivoiser. Ce débutant fictif, c'est Rex Stewart, dont nous avons parlé la semaine dernière en mentionnant notamment son utilisation des pistons à demi abaissés qui lui permettaient d'étrangler le son. Cette technique va suggérer ici quelques-uns des tâtonnements de l'apprenti musicien qui, vous vous en doutez, ne tarde pas à les surmonter. Boy Meets Horn par l'orchestre de Duke Ellington dans la version originale de 1938 pour Brunswick. Nous allons rester dans l'univers de Duke Ellington, qui fut probablement le plus ingénieux des expérimentateurs en matière sonore. Ellington, invité à participer au festival Shakespeare de Stratford dans l'Ontario, composa une suite en l'honneur du dramaturge en s'inspirant de quelques personnages de son théâtre. C'est ainsi qu'il évoqua la folie simulée d'Hamlet dans une composition intitulée « Madness in Great Ones », par référence à un vers de l'illustre tragédie. Pour suggérer la folie, Ellington opte pour une orchestration chargée de ruptures et de dissonances audacieuses. Cette interprétation intrigante est portée par la puissante batterie de Sam Woodyard. On ne manquera pas notamment de repérer dans tout le final le riff insistant, obsédant des trompettistes, d'où se détache peu à peu dans le suraigu Cat Anderson. Éblouissant. Madness in Great Ones, 1957, pour CBS.
L'album de Duke Sweet Thunder pour CBS est vraiment une réussite exceptionnelle et le morceau que nous venons d'entendre en est un reflet éloquent par cette orchestration, comme tu l'as souligné Jacques, audacieuse et inventive au plus haut point. Répétons-le encore, Eddington est une figure majeure de la musique du XXe siècle. Sa musique est un continent d'une abondance, d'une richesse unique qui ne s'épuise pas.
Et c'est pourquoi, Dominique, nous conclurons cette émission par un autre disque de Duke Ellington. Tous les musicologues ont analysé chez Ellington ce qui fut nommé le style jungle, en raison notamment de l'utilisation de cuivre pourvu de diverses sourdines qui ont déformé les timbres. Nous en avons entendu quelques exemples la semaine dernière. Par cet artifice, il s'agissait d'évoquer un milieu inquiétant, sans repère, comme peut l'être la jungle. Ajoutons qu'au fameux Cotton Club où séjourna longtemps Duke Ellington, le décor et certaines attractions suggéraient des ambiances de pays exotiques. Mais cette référence à la jungle, Ellington l'a du reste expliqué, renvoyait tout autant à l'atmosphère étouffante, voire angoissante, des cités américaines tentaculaires, ce que suggère le titre de notre disque de clôture, Asphalt Jungle. Ici, l'arrangement dense, complexe, les lignes contournées en spirale des ensembles de saxo, les explosions de cuivre évoquent un univers inextricable, disharmonieux, souligné par les ponctuations abruptes de la batterie de Sam Woodyard. Asphalt Jungle, 1963, pour Pablo Records.
You may happen to want you to know that our bass player is Ernie Shepherd, bassist.
Jacques et moi vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette antenne pour le troisième et dernier volet de cette thématique titrée « Jazz, de l'expressivité à l'évocation ». Bonne soirée à tous.